Bonjour à tous et bonne année à chacun. C'est vrai qu'il y a un an de plus au compteur et on a réalisé que c'était déjà le centenaire de l'équipe pastorale ici à la Garenne. Alors, parce que le mois dernier, en fait, Trevor vient de fêter ses 40 ans, Alex 30 et moi aussi 30, donc si vous faites le calcul, ça fait 100. Comme quoi le temps passe vite. Donc je profite d'être devant vous tous pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2015. Et en fait, je ne sais pas très bien quoi vous souhaiter pour la nouvelle année qui s'ouvre. J'ai l'impression que tout le monde essaye d'être plus original les uns que les autres. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que la SNCF a préparée. En fait, c'est les petits choristes de la ville d'Asnières qui ont fait une chanson très jolie, qui ne veut pas dire grand-chose, mais très jolie quand même. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose d'original pour vous ce matin, mais quelque chose quand même de vrai, de juste et de bon qui nous vient de la parole de Dieu. Et en fait, le psaume 90... C'est un peu mes vœux pour la nouvelle année, pour nous tous, ce matin. Donc je vous propose de lire ensemble le psaume 90 à la page 398 dans les Bibles blanches. Lisons ce psaume en entier dans la parole infaillible de Dieu. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis, « Fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes, semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. » Nous sommes épouvantés, consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes, et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nos mains. Alors si ce psaume est écrit par Moïse, ça veut dire que c'est en fait probablement le plus ancien de tout le psautier. Donc il date environ de 3500 ans. Et pourtant, il a encore beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Et ça pour deux raisons, en fait. Tout d'abord parce que Dieu, lui, est immuable, il ne change pas. Il est encore le même au XXIe siècle. Et aussi parce que l'homme, au fond, ne change pas vraiment non plus au fil des siècles. C'est vrai que peut-être le climat se réchauffe de quelques degrés. Peut-être que la technologie nous offre des nouvelles possibilités incroyables. Peut-être que la science développe un peu ses connaissances, mais au fond, les besoins de l'homme restent encore les mêmes aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce psaume est toujours pertinent. Donc, en ce premier dimanche de l'année 2015, ce psaume me paraît être d'une grande actualité pour nous. Et je vous propose de réfléchir ensemble au temps qui passe en ce début de nouvelle année. C'est vrai qu'on vit dans une société qui est centrée sur l'instant présent, où tout va vite, très vite, trop vite peut-être. Vous connaissez le slogan Carpe Diem, cueille l'instant présent sans te soucier du lendemain. Et ce matin, avant la reprise demain, peut-être pour la plupart d'entre nous, je vous propose de prendre un peu de recul sur la vie, de nous arrêter et d'écouter ce que Dieu a à nous dire sur le temps qui passe et aussi sur la manière de vivre. Si je devais résumer l'enseignement de ce psaume en quelques mots, je dirais, et vous avez ça sur vos feuilles, la vie est courte. Vivons-la pleinement avec Dieu. La vie est courte. vivons-la pleinement avec Dieu. Alors mon vœu pour vous, pour 2015, c'est que vous preniez conscience que la vie est courte et que vous puissiez vivre pleinement cette vie avec Dieu en 2015 et au-delà. Alors bien sûr, ce n'est pas très précis comme vœu, mais on va détailler tout ça dans la suite. Et nous allons simplement suivre le texte qui se découpe clairement en deux parties. Vous avez aussi les deux points sur votre feuille. Il y a d'abord une méditation assez sombre, c'est vrai, sur la brièveté de la vie, dans les versets 1 à 11. Et puis il y a une prière qui nous montre comment vivre pleinement avec Dieu, dans les versets 12 à 17. Donc si le début vous paraît pas très réjouissant, suivez-moi jusqu'au bout, parce que le meilleur est à la fin. Commençons donc par les 11 premiers versets, une méditation sur la brièveté de la vie. Moïse, donc, dans ce psaume, commence par méditer. Et il faut bien remarquer que sa méditation, elle concerne à la fois Dieu et la communauté. C'est important, les pronoms personnels, surtout dans les psaumes. On voit que c'est une prière qui est prononcée, peut-être chantée, au Seigneur Dieu lui-même, en premier lieu. On voit le « tu » qui revient, la deuxième personne du singulier, qui montre qu'on s'adresse à Dieu. Mais on voit aussi que, même si elle est écrite par Moïse, c'est une prière communautaire, peut-être pour l'instruction et le culte du peuple. On voit le « nous » aussi qui revient, la troisième personne du pluriel, qui désigne la communauté. Donc on comprend que Moïse et la communauté de l'époque, le peuple d'Israël, s'adressent à Dieu. Mais comment est-ce que ces paroles humaines peuvent-elles être la parole de Dieu pour nous? Imaginez que le pasteur Trevor écrive une magnifique prière d'intercession. Est-ce que ça serait la parole de Dieu pour autant? Eh bien, on croit bien sûr que si ce texte est dans la Bible, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui a inspiré ces paroles à Moïse. Et donc, je ne sais pas si vous suivez, mais Dieu nous parle à nous à travers ce que Moïse lui dit à Dieu. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui a inspiré Moïse. Et donc Dieu, à travers ce psaume, nous rappelle d'abord l'importance de méditer ensemble sur lui et sur notre vie. Et cette prière collective nous invite à prendre le temps de réfléchir en Église à cette vérité. C'est ce que nous allons faire dans les minutes qui suivent. Alors à quoi devrions-nous prendre le temps de réfléchir? Relisons les versets 2 à 4. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis « Fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. » Les montagnes, la terre et le monde, aussi vieux soient-ils, ont eu un commencement. Alors, je ne sais pas combien d'entre nous étaient à la montagne pour les vacances, mais ma femme et moi, on était très contents de revoir le Mont Blanc, le Jura, avec lequel on a grandi. Mais les Alpes, le Jura et les Pyrénées ont eu un commencement, mais bien avant eux, Dieu existait déjà. Longtemps avant la création de la planète Terre et de tout l'univers, Dieu, lui, était déjà là. En fait, toutes choses ont eu un commencement, sauf Dieu, qui lui seul a toujours existé. Et face à cette éternité de Dieu, on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que la durée de l'existence de l'homme ? Dans le livre de la Genèse, on voit le récit de patriarches comme Mathusalem qui ont vécu presque 30 ans. Alors Mathusalem, c'était peut-être 969, il y en a d'autres qui étaient dans les 900 aussi. Mais même ces 1000 années, aux yeux du Dieu éternel, le texte nous dit que ce sont comme quelques heures à peine pour lui. La roue tourne, les années passent, une génération remplace l'autre, et Dieu, lui, demeure toujours vivant. Alors tout ceci nous dépasse sûrement un peu. Mais si Moïse prend le temps de méditer là-dessus, et si nous aussi on devrait y réfléchir, c'est parce que ça explique pourquoi Dieu peut être notre refuge encore aujourd'hui. En fait, quelle que soit l'année, à chaque génération, Dieu peut être notre abri et notre demeure. Le Dieu de nos parents et de nos grands-parents, je ne sais pas s'ils étaient chrétiens, mais il est aussi notre Dieu. Et notre Dieu, nous l'espérons et nous prions pour ça, deviendra peut-être aussi celui de nos enfants et nos petits-enfants. Alors nous ne savons pas ce que 2015 nous réserve et quels grands changements nous attendent. Mais il y a une chose de sûre, nous pouvons compter sur la présence du Dieu éternel. Du 1er janvier au 31 décembre, nous pouvons construire notre vie là-dessus, dès aujourd'hui et tout au long de nos jours. En 2015, je ne sais pas si les guerres cesseront, si l'économie reprendra, si le chômage baissera ou quoi que ce soit d'autre. Mais on peut être assuré d'une chose, c'est que Dieu sera toujours là et qu'il sera toujours le même. Si Dieu est éternel, qu'en est-il de nous ? Et la méditation de Moïse, elle se poursuit, c'est vrai que c'est un peu triste. Mais par ces versets, Dieu nous invite à réfléchir sérieusement à notre condition humaine. En effet, Dieu le Créateur et aussi Dieu le Juge, devant qui toutes choses sont dévoilées. On le voit au verset 8. Tu mets devant toi nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Il y a des versets de la Bible qui me font parfois trembler. Peut-être celui-là pourrait être un de ces versets. Quand on se rend compte que Dieu voit toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions, même celles qui sont secrètes, que personne d'autre ne voit. Quand on constate qu'on ne peut rien lui dissimuler, que tous nos efforts pour lui cacher nos fautes seraient vains. Et là, notre méditation touche à la réalité du péché, qui concerne malheureusement toute l'humanité. Dieu nous rappelle que nous sommes tous pécheurs et que nous méritons tous sa colère. Dieu est en colère contre nous à cause de notre rébellion, à cause de nos transgressions. Et Moïse, qui est certainement, lui, en train de méditer sur les trois premiers chapitres de la Genèse, qui raconte la chute et la création, Moïse est en train d'établir un triste lien, et c'est le genre de lien que vous n'entendez pas dans les actualités, au journal télévisé. Mais s'il y a la mort et la souffrance dans le monde, c'est à cause du péché de l'être humain, c'est ce que la Bible dit. Et d'une façon générale, c'est notre péché qui a rendu la vie misérable et le travail pénible. Voilà la condition humaine. Alors bien sûr, ici, Moïse, lui, fait probablement allusion à un jugement particulier de Dieu contre le peuple d'Israël. Et c'est pour ça qu'il faut prendre peut-être un peu de recul par rapport à certains versets, parce qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation que les Israélites à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire, donc c'est dans Nombre 14 que le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, qui a traversé le désert, est arrivé aux portes de Canaan. Et là, il y a 12 espions qui sont allés explorer le pays et qui sont revenus faire leur rapport et qui ont dit que c'était magnifique ce pays. Le seul problème, c'est qu'il y avait quelques géants qui habitaient déjà là. Et à ce moment-là, le peuple d'Israël a manqué de confiance en Dieu. Et au lieu d'obéir, au lieu de partir à la conquête de ce pays, il a eu peur. Et le jugement de Dieu est tombé. Et Dieu a dit que ce peuple devrait errer 40 années dans le désert, jusqu'à ce que toute la génération des adultes soit morte. Et que seuls leurs enfants, seule la génération suivante pourrait entrer dans le pays de Canaan. Donc si on repense un peu au contexte de cet épisode, on comprend mieux pourquoi le ton est assez sombre dans ce psaume, qui date sûrement de cette période. Parce que pour les Israélites de l'époque, la mort était une punition directe pour un péché précis que Dieu avait révélé. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose que pour nous aujourd'hui. Mais pourtant, il y a une réalité qui demeure. Dieu nous avertit solennellement que nous aurons à affronter cette double réalité. D'une part, que notre vie ici-bas est de courte durée, et que la mort nous attend tous également. Et d'autre part, que Dieu est en colère contre le péché, et que son jugement tombera tôt ou tard, dans cette vie peut-être, ou en tout cas au jugement dernier. Alors c'est pas le genre de choses qu'on dit dans nos vœux, et franchement je le souhaite à personne, mais si Dieu le veut, cette année sera peut-être la dernière pour certains d'entre nous ici, peut-être pour moi. Et Dieu nous rappelle qu'il ne faut pas vivre comme si la vie n'existait pas, ou comme si elle concernait que les autres. Parce qu'un jour ou l'autre, bientôt, nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour notre vie. Comment espérons-nous affronter cette juste colère de Dieu, notre Créateur et notre Juge ? Qu'est-ce que nous comptons lui dire quand toutes nos fautes seront mises devant nos yeux, quand toutes choses deviendront visibles? Alors pour nous, qui nous sommes repentis de nos péchés, qui avons mis notre foi en Christ, bien sûr nous savons que la colère de Dieu est définitivement apaisée envers nous. On sait que Christ a subi cette colère à notre place. On sait qu'il a pris sur lui toute la malédiction que nous méritions. Et ça c'est merveilleux quoi. Et on comprend que grâce aussi à l'œuvre du Christ, la mort des croyants, elle n'est plus une punition, comme c'était le cas pour ces Israélites, elle est en fait un passage de cette vie à l'au-delà. Mais pour l'instant, nous sommes toujours dans ce monde déchu, avec son lot de souffrances. Et même si nous avons l'espérance de la vie éternelle, de cette délivrance parfaite de tout péché, malgré tout, il reste que notre vie ici-bas est courte, que la mort nous attend un jour ou l'autre. Alors rassurez-vous, le psaume ne nous laisse pas là sur cette note macabre. Et je vous propose de passer à la deuxième partie, à cette prière pour vivre pleinement notre vie avec Dieu, les versets 12 à 17. Dieu a encore quelque chose à nous dire ce matin. Alors j'ignore quels sont vos projets pour 2015, si vous en avez. Je sais que certains vont probablement se marier ou d'autres attendent un heureux événement dans la famille. Certains auront peut-être un changement de poste, un déménagement en vue. Enfin, je ne vous conseille pas de faire tout ça d'un coup, expérience faite. Peut-être que vous allez faire un grand voyage, terminer vos études, partir en vacances. Hein, c'est toutes des choses qui nous réjouissent. C'est bien d'avoir des projets, des choses qui nous motivent, des choses qui nous mobilisent. Mais avant de les mettre en action, Dieu nous rappelle qu'il vaudrait mieux imiter Moïse et s'adresser d'abord à lui. On voit qu'après avoir médité sur l'éternité de Dieu et sur la brièveté de la vie, Moïse se met à prier. Et c'est important d'avoir les choses dans le bon ordre. Il y a d'abord la méditation, après il y a la prière et après il y a l'action. Si on fait dans le désordre, ça marche moins bien. Mais c'est la prière qui est nourrie par la méditation et c'est l'action qui est aussi guidée par les deux précédents. Alors avant de vous lancer dans vos projets de cette année ou peut-être d'en faire de nouveau, je vous propose d'écouter la suite de ce psaume. Ce psaume nous enseigne simplement comment prier et ce qu'il faut demander à Dieu. En fait, à travers cette prière, Dieu nous dit comment vivre pleinement pour lui. Alors bien sûr, ce n'est pas exhaustif, il n'y a pas à résumer ici tout l'enseignement de la Bible, mais il y a déjà un excellent départ pour la vie, pour l'année 2015. Je ne sais pas combien d'entre nous non plus ont pris des bonnes résolutions pour cette année. Enfin, chaque dimanche, moi je viens depuis Colombes à pied jusqu'à l'église. Et ce matin, j'étais frappé de voir le nombre de personnes qui faisaient leur jogging. Je n'en ai jamais vu autant dans les rues. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Mais... Hein, on se dit qu'on va manger moins, qu'on va faire plus de sport, qu'on va arrêter de fumer peut-être, qu'on va commencer telle activité. Et là aussi, c'est bien de se fixer des objectifs, c'est bien de se lancer des défis. Mais on peut se demander, où est Dieu dans tout ça? Qu'est-ce que Dieu pense de nos résolutions? Est-ce que c'est réellement important à nos yeux, ce qu'on s'est fixé? Et aussi, quelle place a Dieu dans notre vie? Est-ce qu'on compte sur nous ou sur lui pour atteindre ces résolutions? Et cette prière, elle nous aide à voir à la fois ce qui est important à la lumière de l'éternité et comment vivre avec Dieu au quotidien. Et je vous propose donc maintenant 4 pistes très concrètes, très pratiques dans la fin de ce psaume. Tout d'abord, au verset 12, « Apprenons à gérer notre temps avec sagesse. » Je relis ce verset. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Alors on pourrait se dire, on vient de méditer pendant 11 versets sur le fait que la vie est courte, pourquoi est-ce qu'il faut encore demander la sagesse à Dieu? Et on se rend compte que c'est une chose de savoir avec la tête que la vie est courte et que la mort nous attend, mais c'en est une autre de vivre de manière cohérente en fonction de cette réalité au quotidien. Et c'est pour ça qu'on peut demander à Dieu la sagesse qui nous manque. Et on a cette promesse dans l'épître de Jacques, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. C'est Jacques 1,5. On demande donc la sagesse à Dieu pour bien compter nos jours. Concrètement, ça veut dire ne pas gaspiller notre temps. Alors le mois dernier, pour mes 30 ans, ma femme a fait une collecte auprès de la famille, et c'est pour ça que j'ai pu recevoir ma première tablette, un magnifique iPad Air 32Go tout neuf. Et c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut faire avec cette tablette. C'est presque sans limite. Avant de faire les études de théologie, j'étais dans l'informatique, donc je suis un peu passionné par ça. Mais C'est aussi incroyable tout le temps qu'on peut perdre avec cette tablette. Ça aussi, c'est sans fin, en fait. On pourrait se dire, il y a tant d'applications à essayer, il y a tellement de contenu à lire, à écouter, à regarder. Pensez juste à le nombre de vidéos sur YouTube. Une vie tout entière n'y suffirait pas à toutes les visionner. Ou plutôt, une vie tout entière y passerait presque sans qu'on s'en rende compte. Et gérer notre temps avec sagesse, alors c'est juste un exemple, hein, mais c'est peut-être faire attention à ces chronophages, à ces choses qui ont tendance à prendre ou à nous faire perdre beaucoup de notre temps. Comme Moïse, demandons à Dieu la sagesse de bien gérer notre temps. Avec l'aide de Dieu, on peut apprendre en fait à discerner l'essentiel de l'accessoire, l'éternel de l'éphémère. Alors ça ne veut pas dire forcément de renoncer à l'iPad, ouf. Ça veut dire apprendre à maîtriser ces choses, à bien contrôler le temps qui passe. Première piste donc, apprenons à gérer notre temps avec sagesse. Ensuite, recherchons en Dieu notre joie quotidienne. Et je relis les versets 13 et 14. Reviens, Éternel, jusqu'à quand ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Ce cri revient, il devrait nous interpeller. Quand on y réfléchit, comment est-ce qu'on peut penser que le Dieu omniprésent, qui est présent partout, puisse être parti loin de nous ? Si Dieu est partout, voilà. Mais là encore, on voit qu'il ne s'agit pas juste d'une présence théorique. Ce n'est pas le fait simplement de croire que Dieu est présent partout, mais c'est aussi une présence expérimentée qui concerne notre relation avec Dieu. Je crois que Dieu peut sembler lointain parce que nos péchés, certains péchés non confessés, nous éloignent de lui. Et comme Moïse, comme peut-être ce peuple dans le désert qui ressentait cet éloignement de Dieu, on peut crier à Dieu dans la repentance de nous pardonner et de revenir se manifester à nous. Et il y a un risque, et c'est une tendance que j'ai, et peut-être certains d'entre vous aussi, c'est on peut s'habituer peut-être à vivre loin de cette présence consciente de Dieu sans que ça nous perturbe. On a toujours notre belle confession de foi, peut-être on fait toujours les mêmes belles prières, on chante les mêmes beaux cantiques. Mais pour finir, on devient petit à petit des chrétiens cérébraux. On se satisfait d'une foi purement intellectuelle et on vit plus cette communion vivante avec Dieu. Alors nous pouvons aussi nous distancer de Dieu parce que nous ne prenons pas de temps pour lui. Et on rejoint un autre thème. Le texte nous dit « Rassasie-nous chaque matin ». Tous les matins, nous avons besoin de Dieu, comme de notre petit déjeuner, pour bien démarrer la journée. Chaque jour, nous devons nous réjouir de la bonté et de la grâce merveilleuse de Dieu. Je crois qu'il y a là le secret du bonheur, parce que il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas dans cette vie. Les circonstances peuvent être difficiles, la crise peut être là. Mais en toutes circonstances, on sait que rien ne peut nous enlever cette joie de notre salut en Jésus-Christ. Rien ne peut nous ôter le plaisir de cette communion renouvelée avec Dieu, notre Père. Alors comme nous prenons le temps de manger, nous avons besoin de temps seul avec Dieu. Pas forcément le matin, si c'est un autre moment pour vous, ça marche aussi. Mais c'est parfois difficile. Quand on a tellement de choses à faire, quand on a peut-être des échéances qui nous pressent, quand on est fatigué, stressé. Et pourtant, notre priorité numéro un devrait être un moment de recueillement devant Dieu. Prenons le temps de méditer sa parole, de nous rappeler et de nous réjouir de sa grâce. Prenons le temps aussi de lui parler dans la prière, de lui exprimer nos requêtes, de lui remettre nos soucis. Bref, recherchons en Dieu seul notre joie quotidienne, jour après jour. On peut faire ça toute la journée même. Apprenons à gérer notre temps avec sagesse. Recherchons en Dieu notre joie quotidienne. Et maintenant, la troisième piste. Attendons la délivrance et la consolation de Dieu, au verset 15, que je relis. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Dans la version Semeur, c'est dit ainsi. Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur. Alors, comme on l'a évoqué, les Israélites ont souffert 40 ans à cause de leur propre faute dans le désert. Dans un sens, ils pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et nous aussi, peut-être qu'il nous arrive parfois de souffrir des conséquences de nos propres péchés, de nos mauvaises décisions, de nos fautes. Mais il se peut aussi qu'on souffre du péché de quelqu'un d'autre, qu'on soit en fait des victimes du péché d'autrui. Ou on peut souffrir du péché en général, de cette condition de l'humanité dans ce monde déchu, avec la maladie, le handicap. En tout cas, on voit que même vivre pleinement avec Dieu ici-bas, ce n'est pas la garantie d'une vie sans épreuve. Et pourtant, nous savons que Dieu tient toutes choses dans sa main, le mal comme le bien. On le voit dans la formulation, c'est dit, c'est toi qui nous humilie. Dans un sens, c'est lui qui nous humilie, Dieu. C'est lui qui permet le malheur dans notre vie, mais c'est aussi lui qui délivre et qui console. Et comme Moïse, nous pouvons demander à Dieu la délivrance de nos épreuves présentes, quelles qu'elles soient, probablement différentes que celles des Israélites à l'époque. Et peut-être que Dieu nous exaucera dans cette vie, peut-être même cette année en 2015. Mais dans tous les cas, nous les croyants, nous attendons une délivrance meilleure. L'apôtre Paul écrira plus tard dans 2 Corinthiens 4, 17 à 18. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Dans cette prière, en fait, on demande une consolation de un pour un, c'est-à-dire si j'ai eu un an de malheur, j'espère avoir un an de bonheur, ou si j'ai eu 10 jours de peine, j'aimerais 10 jours de joie. Mais quand on comprend bien l'éternité, on se rend compte que la consolation de Dieu, elle est en fait infinie. Quelques années de souffrance nous amènent à une éternité de joie en lui. Voilà la troisième piste. Attendons la délivrance et la consolation de Dieu. Et pour terminer, une quatrième, au verset 16 et 17, travaillons à l'avancement du royaume de Dieu. Et je relis ces versets. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de Dieu, l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nos mains. On voit que la prière, elle se termine par un appel à l'action, l'action de Dieu et celle des hommes. Alors c'est bien de méditer, il ne faut pas faire que ça. Oui. Est-ce qu'en 2015, nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Voilà ce que dit la version Semeur, que ton œuvre apparaisse envers tes serviteurs et que leurs descendants découvrent ta grandeur. Est-ce que nous voulons que nos enfants, nos descendants, découvrent aussi la gloire de Dieu? Avec Moïse, on voit qu'on peut intercéder pour nous-mêmes, on peut intercéder pour la génération suivante et celles qui vont suivre encore. Et nous avons tous le même besoin. Nous avons besoin d'implorer la grâce de Dieu sur nous, son œuvre de salut imméritée en nous. Un jour, Dieu nous attire à lui par sa grâce et il poursuit cette œuvre de grâce en nous, jour après jour, il ne nous lâche pas. Et on peut être reconnaissant que Dieu continue son action parmi nous encore aujourd'hui. On a eu la joie d'avoir 2 baptêmes récemment. Et on espère, on prie que Dieu agisse encore puissamment, qu'il manifeste sa gloire ici à la Garenne en 2015 et dans le monde entier. Ça m'a fait penser à une parole de Jésus aussi qu'il dira plus tard à ses disciples dans Jean 15:15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce texte, dans le psaume, on voit 2 fois tes serviteurs, mais on comprend que en Christ, nous sommes plus que des serviteurs, nous sommes même les amis de Christ, qui est venu nous révéler l'œuvre du Père. Et non seulement Christ nous révèle l'œuvre du Père, mais le privilège qu'on a en tant que croyant, c'est qu'on entre dans cette œuvre, qui nous y fait même y participer. Le privilège, c'est de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu dans le monde. On peut travailler ainsi avec Dieu à l'établissement de son règne sur son peuple, qui est l'Église. Alors peut-être qu'à 20 ou 30 ans, on ne se pose pas ce genre de questions, mais peut-être que nos aînés la sont déjà posées, de savoir quel héritage nous laisserons dans ce monde lorsque nous le quitterons. C'est vrai, la vie est courte. Qu'est-ce qui restera de notre passage sur Terre? Ça détermine ce à quoi on va tendre, ce dans quoi on va investir nos efforts, ce qui va représenter aussi nos espoirs. Et Dieu nous dit ce matin que la meilleure chose qu'on puisse léguer à la postérité, à nos enfants, à la génération suivante, c'est Dieu lui-même. Cette connaissance de Dieu et de sa grâce, cette joie en lui. Dieu nous dit que l'entreprise la plus durable que nous puissions laisser à la postérité, c'est l'Église. Toute entreprise humaine peut disparaître, on ne sait jamais. Une faillite peut survenir ou il peut manquer d'un repreneur et le travail de toute une vie s'arrête. Mais on sait que l'Église, elle, traversera les générations, parce que c'est l'Église de Christ et qu'il l'a promis. Alors c'est vrai, le temps est court, mais nous avons la possibilité de travailler avec Dieu, pour Dieu. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire, hein. C'est toujours dans Jean 15, mais en Christ, nous pouvons porter du fruit. Et ma prière, c'est que Dieu bénisse l'œuvre de notre main, l'œuvre de nos mains, qu'il nous accorde de voir encore du fruit en 2015, à la Garenne et au-delà. Alors, en conclusion, nous avons vu que notre vie sur cette terre est bien courte, que nos jours sont comptés et que la mort nous attend, si Christ ne revient pas avant. Bien sûr, la mort n'est pas la fin de tout, elle est plutôt le passage dans l'éternité de l'au-delà. Mais même si on a cette espérance de la vie éternelle, nous sommes appelés à vivre déjà ici et maintenant, chaque jour que Dieu nous donne sur cette terre. Et donc nous avons vu aussi comment vivre pleinement cette vie avec Dieu, ici-bas. Et je vous rappelle les quatre pistes. D'abord, apprenons à gérer notre temps avec sagesse, et demandons cette sagesse à Dieu. Ensuite, recherchons en Dieu notre joie quotidienne, c'est ça le plus important, chaque jour. Après, attendons la délivrance et la consolation de Dieu. On peut crier à lui, on peut lui demander la délivrance, peut-être qu'il nous la donnera dans cette vie, mais on est sûr de l'avoir dans l'éternité de joie avec lui. Et enfin, travaillons à l'avancement du royaume de Dieu. S'il y a une chose durable, s'il y a une chose dans laquelle on peut investir, c'est ça, que nos enfants, que la génération suivante puisse connaître aussi Dieu, que son royaume puisse progresser. Et pour terminer, je voudrais juste vous attirer l'attention sur le fait que toutes ces choses, elles sont dites sous une forme de prière. Ce n'est pas les exhortations de l'apôtre Paul, faites ceci, faites cela. Et pourquoi c'est dit sous forme de prière? C'est parce que pour toutes ces choses, on a besoin de la grâce de Dieu. On n'est pas appelé à compter sur nos propres efforts même pour faire ce qui est bien et juste, d'après la Bible. On a tous besoin de Dieu pour vivre pleinement cette vie à sa gloire. Nous dépendons de sa grâce et c'est pourquoi nous devons aussi prier. Et on peut s'approprier ces mots de Moïse encore aujourd'hui. On peut les prier pour nous-mêmes, on peut les prier pour les autres. Voilà, pour 2015, mon vœu, c'est que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, dès aujourd'hui et tous les jours de notre vie sur terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.